Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante étude concernant la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 20 et notre deuxième partie, numéro 20 et deuxième partie, et le titre sera « Comment Christ fut mis en état d'assurer les résultats du rachat opéré par lui ?» De même que l'incarnation de Christ était nécessaire pour qu'il pût accomplir le rachat, ainsi sa résurrection et son ascension étaient nécessaires pour assurer le succès de ce rachat. Primo, sa résurrection. Voyez-vous, pour que Christ a pu recueillir les fruits de son rachat, il était donc indispensable qu'il ressuscitât d'entre les morts, car Dieu le Père avait confié, en effet, il avait confié toute l'œuvre de la rédemption à son Fils bien-aimé, non seulement pour l'accomplir en sa qualité de sacrificateur, mais aussi en qualité de roi, et afin qu'il puisse tout cela faire comme Dieu homme, car il était devenu Dieu homme, en quelque sorte. Donc Dieu le Père ne pouvait en rien manifester sa miséricorde aux hommes déchus, si ce n'est par l'intermédiaire d'un médiateur. Mais pour que Dieu a pu assurer le succès du rachat qu'il avait accompli comme Dieu homme, il était nécessaire qu'il ressuscitât d'entre les morts. Aussi Christ, après avoir, par sa mort, terminé le rachat, ressuscita des morts pour en recueillir les fruits. Donc, Dieu le Père lui avait confié ces choses, afin que, comme Seigneur de tout, il a pu tout faire concourir à son but. Voyez-vous, c'est pour cela que Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a repris une nouvelle vie afin qu'il domine tant sur les morts que sur les vivants. Romains chapitre 14 verset 9. Vous pouvez donc noter les indications que je vous donne, les indications bibliques, pour vérifier que vraiment c'est la parole de Dieu et non pas une théologie personnelle. Donc, au fait, voyez-vous, la résurrection de Christ ainsi que son ascension, elle fait déjà partie du succès de l'œuvre qu'il avait accomplie par ses souffrances et par son humiliation, car bien que, à proprement parler, Christ n'a point, on peut dire, acquis la rédemption pour lui-même, il faut bien le dire. Mais toutefois, il a acquis la vie éternelle et la gloire pour lui-même comme, on peut dire, comme une récompense de ce qu'il avait fait et ce qu'il avait souffert. Il s'est donc abaissé lui-même et il a été obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire à la mort même de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu le Père l'a souverainement élevé, selon Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. On peut d'autant plus la considérer comme un fruit du succès du rachat qui a été accompli par Jésus-Christ, qu'il ne ressuscita pas seulement en sa qualité privée, mais comme la tête de son Église, si bien que les fidèles ressuscitèrent en quelque sorte tous avec lui. Christ fut donc justifié dans sa résurrection. Dieu, en le ressuscitant, l'a déchargé de ses fonctions comme ayant fait assez et souffert suffisamment, il faut bien le dire, pour les péchés de tout son peuple. De tout son peuple, lequel a été livré pour nos offenses, oui, et qui est ressuscité pour notre justification, selon Romains chapitre 4, verset 25. En effet, Jésus-Christ, on peut bien le redire, a été livré, crucifié pour nos offenses, pour mes péchés. Et il est ressuscité pour notre et votre justification, selon Romains chapitre 4, verset 25. Et Dieu l'a mis en possession de la vie éternelle comme chef de l'Église et comme une garantie que les siens le suivraient. Car lorsque Christ ressuscita d'entre les morts, la vie éternelle a commencé en lui. Sa vie antérieure à sa mort, donc avant sa mort, elle était mortelle, elle était que temporaire. Mais après sa résurrection, elle est devenue éternelle. Sachons donc que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus et que la mort n'a plus d'empire sur lui, selon Romains chapitre 6, verset 9. Et il est dit, et j'ai vu, mais j'ai été mort, car j'ai vécu avant ma mort, et voici que je suis vivant maintenant, et ceci au siècle des siècles, selon Apocalypse chapitre 1, verset 18. Donc, Jésus vit, alléluia. Bien qu'il a été mort pour nous, et voici, il est vivant au siècle des siècles pour nous. Mais il n'entra en possession de cette vie éternelle que comme tête de tout le corps, de tout le corps de Christ. De sorte que l'Église entière ressuscita en quelque sorte avec lui. Et dorénavant, lui qui a tant souffert ne doit donc plus souffrir, mais il est entré dans la gloire éternelle. Le jour est donc venu où il va régner comme le chef de l'Église, et l'Église entière va régner avec lui. Ce jour méritait d'être célébré avec la plus grande joie possible. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous et réjouissons-nous en elle. Aussi ce jour a été mis à part. Il a été mis à part parmi tous les autres. Pourquoi ? Mais pour être jusqu'à la fin du monde, sanctifié toutes les semaines comme un jour de repos et de joie, et cela afin que l'Église puisse se reposer et se réjouir avec son chef. Si d'un côté, le troisième chapitre de la Genèse est le plus triste des chapitres de la Sainte Bible, d'un autre côté, ceux dans lesquels les évangélistes donnent un récit de la résurrection de Christ peuvent être considérés comme étant les plus réjouissants. Ils donnent en effet le récit de l'achèvement du rachat de la rédemption et du commencement de la gloire du chef de l'Église comme étant le sceau et la garantie, il faut bien le dire, de la gloire éternelle de tous ses membres. Il faut observer que les jours de l'Évangile ont commencé proprement avec la résurrection de Christ. On a bien compris cela, que les jours de l'Évangile ont commencé, proprement parlé, avec la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors disparaît la nuit de l'Ancien Testament, la sortie joyeuse et glorieuse de Jésus-Christ du tombeau. Cela était comme le lever du soleil après une longue nuit de ténèbres, apparaissant pour éclairer et pour réjouir le monde. Alors comment cette merveilleuse, joyeuse journée, cette glorieuse dispensation dont les prophètes ont tellement parlé. Maintenant, le soleil de l'Évangile s'est levé glorieux et la santé sera dans ses rayons afin que ceux qui craindront le saint nom de l'Éternel puissent progresser et acquérir de l'embonpoint, comme on dit, se sentir bien, comme de jeunes bœufs que l'on engraisse. Donc, être vraiment épanoui. Secondo, nous avons donc l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension de Jésus-Christ, c'est l'établissement à la droite de Dieu. Car Jésus-Christ est monté aux cieux pour s'asseoir à la droite de Dieu dans la gloire. Le libérateur d'un peuple, son roi. Oui, il est lui, le libérateur de tout son peuple, afin d'être en état de pouvoir le délivrer. Et d'abord, il est établi sur son trône. Il nous est dit que Christ a été élevé pour assurer le succès de sa rédemption. Oui, pour assurer le succès de sa rédemption. Et Dieu l'a élevé par sa puissance pour être le prince et le sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. La repentance, donc, tous nous devons nous repentir si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Et ainsi, notre Sauveur et Seigneur va nous remettre tous nos péchés, selon Actes chapitre 5, verset 31. L'ascension de Jésus-Christ a été en quelque sorte son couronnement solennel. Le Père l'a placé sur le trône et il l'a investi de la gloire du royaume qu'il s'est acquis afin qu'il a pu retirer tous les fruits de sa rédemption en conquérant tous ses ennemis. Il est dit dans le psaume, je crois, le chapitre 60, verset 1. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Psaume 60, verset 1. Jésus-Christ entra donc dans les cieux pour recueillir les fruits de son rachat, comme le souverain sacrificateur des anciens temps qui, après avoir offert des sacrifices, entrait vraiment dans le Saint des Saints avec le sang pour obtenir les effets du sacrifice qu'il avait présenté, selon Hébreux chapitre 9, verset 12. Jésus entra donc dans les cieux afin d'intercéder pour tout son peuple et de faire valoir le sacrifice qu'il avait offert dans le but d'en recueillir les fruits. Hébreux chapitre 12, verset 25. Et lorsque Jésus monta au ciel, Dieu l'établit sur le trône d'une manière visible comme roi de l'univers. Il plaça alors les anges sous son commandement et lui soumit les cieux et la terre pour qu'il les gouvernât dans l'intérêt de ceux pour qui il était mort, selon Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22. Dans son ascension, comme dans sa résurrection, Jésus agit comme tête de tout le corps et en qualité de, on peut dire, de précurseur de l'Église tout entière. Les hommes sont donc montés en quelque sorte dans les cieux avec lui, de sorte que nous sommes donc élevés et nous sommes tous assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 2, verset 6. Le jour de l'ascension de Jésus-Christ, ce jour fut sans doute un jour de réjouissance et de gloire dans les cieux. Et la gloire et le bonheur des cieux, ont été certainement augmentés quand ils reçurent comme leur roi Jésus-Christ, Dieu homme. De sorte que, voyez-vous, les deux portions de l'Église, celle qui est dans les cieux et celle qui est sur la terre, en vue des jours plus glorieux depuis l'humiliation, donc, de Jésus-Christ, que précédemment, c'est devenu beaucoup plus glorieux. Et cela a suffi pour ce qui concerne les choses par lesquelles Christ, Jésus, fut mis en état de recueillir les fruits de l'œuvre de la rédemption. Chers amis, la dispensation juive ne pouvait convenir pour le monde entier ou pour une église dispersée dans toutes les parties du monde. Il aurait été impossible à des hommes vivant dans toutes les parties du monde d'aller à Jérusalem trois fois par année, comme cela était prescrit dans cette constitution-là. Or donc, quand Dieu se proposa d'étendre son Église, comme ce fut le cas après la résurrection de Jésus, il était nécessaire que cette dispensation fût abolie. Parce que, voyez-vous, si elle avait continué, elle aurait été un grand obstacle pour l'agrandissement de l'Église. De plus, leur loi cérémonielle, par suite de sa sévérité et des particularités de quelques-uns de ses rites, était en quelque sorte une muraille de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, et elle aurait empêché ces derniers de se conformer à la véritable religion. Cette muraille fut donc renversée pour favoriser le progrès de l'Évangile, selon Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 15. Deuxièmement, ensuite, dans l'ordre du temps, nous avons l'institution du sabbat chrétien, car il ne s'était que graduellement établi dans l'Église chrétienne. Cependant, voyez-vous, les choses qui servirent à révéler l'intention et la volonté de Dieu ont commencé le jour de la résurrection de Christ par son apparition à ses chers disciples. Notez Saint Jean, chapitre 20, verset 19. Et cette institution fut dans la suite confirmée par la circonstance qu'il apparut de temps à autre dans ce jour plutôt que dans un autre, selon Saint Jean chapitre 20, verset 26. Donc, par l'envoi du Saint-Esprit, ce jour-là, notez Actes chapitre 2, verset 1, et ensuite, en ordonnant que le culte public des chrétiens se célébra ce jour-là, ce qu'on peut conclure selon Actes chapitre 20, verset 7, et de 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 et 2, et ajouter encore Apocalypse chapitre 1, verset 10. C'est donc ainsi que le jour de la semaine dans lequel Christ ressuscita des morts a été mis à part comme un jour de réjouissance pour toute l'Église, et ceci jusqu'à la fin du monde. Troisièmement, ensuite, Jésus-Christ institua le ministère évangélique et envoyant ses apôtres, il les a envoyés pour enseigner et pour baptiser toutes les nations. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant de garder tout que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Cet ordre de Christ à ses apôtres renferme trois choses. Je dis bien que cet ordre qui a été donné par Jésus à ses apôtres renferme trois choses. Nous allons les voir ensemble. Primo, nous avons l'institution de la fonction du serviteur évangélique, car cet ordre que Dieu a donné à ses apôtres pour ce qu'il a d'essentiel s'adresse à tous les ministres, à tous les serviteurs de Dieu, et en vertu de cet ordre, les apôtres furent ministres, serviteurs de Dieu, aux anciens de l'Église. Secondo, quelque chose de particulier dans cet ordre, c'est d'aller d'une nation à l'autre pour prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile dans tout le monde. Les apôtres avaient donc quelque chose au-dessus de ce qui était impliqué dans leur caractère ordinaire de serviteurs de Dieu. Ils avaient un pouvoir extraordinaire pour enseigner et pour gouverner toutes les églises, non seulement celles qui existaient déjà, mais toutes celles qui existeraient jusqu'à la fin du monde par leurs serviteurs. C'est donc ainsi que les apôtres, tout en restant subordonnés à Jésus-Christ, ont été établis comme les fondements de l'Église chrétienne, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, et Apocalypse chapitre 21, verset 14. Et tierso, nous trouvons là l'institution du baptême chrétien. Cette cérémonie a commencé, il est vrai, d'exister avant cette époque déjà. Par exemple, Jean-Baptiste et Jésus-Christ ont baptisé, mais dans cette circonstance, le baptême est établi comme une institution devant durer dans l'Église chrétienne jusqu'à la fin du monde. La cérémonie de la Sainte Cène avait été instituée immédiatement avant la crucifixion de Jésus-Christ. Quatrièmement, ensuite, les apôtres et d'autres avec eux ont reçu le don extraordinaire et miraculeux du Saint-Esprit comme étant le don des langues, celui de la guérison, de la prophétie et beaucoup d'autres. À cet égard-là, le Saint-Esprit de Dieu a été abondamment répandu, de sorte que non seulement les serviteurs, mais beaucoup de chrétiens dans le monde entier, qu'ils soient vieux ou jeunes, sont devenus participants de tous ces dons. Il ne vient pas exclusivement sur les fonctionnaires, non, ni sur les personnes les plus honorables non plus, mais sur les serviteurs et sur les servantes, conformément à la prophétie de Joël, chapitre 2, versets 28 et 29, que l'apôtre Pierre a déclaré être accompli dans cette dispensation-là. Actes, chapitre 2, verset 14. Non, pardon, Actes chapitre 2, verset 11. Quelle admirable dispensation, mes chers amis. Sous l'Ancien Testament, il n'y a eu que peu de personnes qui ont reçu cet honneur-là. Il y avait évidemment Moïse, Josué, Élie, Élisée, Joseph, Daniel, etc. Mais ce n'était qu'une minorité, il faut bien le dire. Le christianisme, ayant une fois été établi par le moyen des miracles dans une si grande portion du monde inconnu, il fut ensuite beaucoup plus facile de le conserver par tradition. Et ces dons extraordinaires de l'Esprit-Saint ont mis les apôtres en état d'écrire le Nouveau Testament pour être la règle infaillible et perpétuelle de la foi et de la pratique dans l'Église. Et ces miracles mentionnés dans ces écrits sont pour tous les âges une preuve permanente de la vérité du christianisme. Cinquièmement, nous avons ensuite la révélation pleine et entière de ces grandes doctrines qui n'avaient été révélées que obscurément sous l'Ancien Testament. Moïse plaçait un voile sur sa face pour cacher l'éclat de Dieu. Mais maintenant le voile du temple est déchiré du haut en bas. Christ Jésus, l'antitype de Moïse, peut donc paraître, il paraît dans tout son éclat. Sa face n'est point recouverte d'un voile. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 12, 13 et 18. Ces grands mystères, qui dans une certaine mesure étaient toujours restés secrets depuis la fondation du monde, sont aujourd'hui clairement révélés. Or, à celui qui est puissant, est-il dit, pour vous affermir selon mon évangile et selon la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été caché dans les temps passés, mais qui est maintenant manifesté. Notez Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 5, et ajoutez Romains chapitre 16, verset 25. Savoir le mystère qui avait été caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à tous ses saints, selon Colossiens chapitre 1, verset 26. Nous lisons que Jésus resta avec les disciples pendant 40 jours en leur parlant de choses concernant le royaume des cieux. Actes chapitre 1, verset 3. Et Jésus leur ouvrit ainsi l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les saintes écritures. Saint Luc chapitre 24, verset 45. Oui, c'est bien ça. Donc, Saint Luc, chapitre 24, verset 45. Mais la complète révélation de ces choses a eu lieu principalement après l'envoi du Saint-Esprit, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, conformément à la promesse de Jésus-Christ. J'ai à vous dire, c'est ce qu'il dit Jésus, j'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, c'est-à-dire savoir l'Esprit Saint de vérité, sera venu, il vous conduira en toute vérité. Notez Saint Jean, chapitre 16, versets 12 et 13. C'est donc surtout l'apôtre saint Paul qui nous a donné cette révélation des mystères de l'Évangile par ses écrits. Un enfant peut en apprendre plus sur les doctrines de l'Évangile à divers égards que n'en ont jamais connu les plus grands prophètes dans l'obscurité de l'Ancien Testament. Et c'est donc ainsi que nous voyons comment la lumière de l'Évangile qui commença à poindre immédiatement après la chute et allait en croissant pendant toutes les époques de l'Ancien Testament. Et elle est parvenue maintenant à sa plus grande splendeur, comme on peut dire comme l'éclat du soleil. Oui, du soleil qui brille dans toute sa gloire. Sixièmement, j'observerai encore l'institution de la charge de diacre dans l'Église chrétienne. Il y avait les diacres dont nous avons le récit dans le sixième chapitre des Actes pour pourvoir aux besoins temporels des membres de l'Église et aussi pour exercer la charité, cette grande vertu chrétienne. Septièmement, nous avons la vocation, la préparation et l'envoi de l'apôtre Paul. Tout cela a commencé par sa conversion sur le chemin de Damas, et ce fut un des plus grands moyens d'assurer le succès qui a suivi, car il y a contribué beaucoup plus que toutes les autres ensemble. Et par ses travaux-là, sa prédication et par ses écrits, il a travaillé plus que tous les autres. Comme il était l'apôtre des non-juifs, ce fut surtout par le moyen de son ministère que les non-juifs ont été appelés et que l'Évangile a pu se répandre dans tout le monde. C'est donc à lui surtout que notre nation et celle d'Europe sont redevables de la connaissance de l'Évangile, et le Saint-Esprit s'est servi de lui, de l'apôtre Paul, beaucoup plus que de tous les autres apôtres pour révéler les grandes vérités de l'Évangile par tous ses écrits à l'usage de l'Église dans tous les âges. Huitièmement, nous avons l'institution des conciles ecclésiastiques pour décider les controverses et pour régler les affaires de l'Église, ainsi que cela est raconté dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 9. Et neuvièmement, nous avons la mise en écrit du Nouveau Testament. Ce n'est pas rien. Le Nouveau Testament fut tout écrit après la résurrection de Jésus-Christ. Tout cela a été écrit par les apôtres eux-mêmes, excepté les évangiles de Saint-Marc et de Saint-Luc et le livre des Actes. On suppose que celui qui a écrit l'évangile de Marc était le fils de cette Marie chez qui on était réunis en prière en faveur de l'apôtre Pierre lorsque, délivré de la prison par un ange, il est venu et a frappé à la porte. Il est venu à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs étaient assemblés et faisaient des prières. Actes chapitre 12, verset 12. Il était donc le compagnon de voyage des apôtres Barnabas et Paul, selon Actes chapitre 15, verset 37. Il était le fils le fils de la sœur de Barnabas, et il semble avoir été pendant quelque temps le compagnon de l'apôtre Paul. Aristarque, qui est prisonnier avec moi, vous salue aussi, et Marc, qui est le cousin de Barnabas, par lequel vous avez reçu un ordre, s'il vient à vous, eh bien recevez-le, est-il dit dans Colossiens chapitre 4, verset 10. L'apôtre semble donc avoir fait un grand cas de lui, comme on le voit par ces passages, quand il dit Barnabas aussi et Saul, après avoir achevé leur commission, s'en retournèrent de Jérusalem, ayant aussi pris avec eux Jean, qui était surnommé Marc. Notez Actes chapitre 12, verset 25. Et quand ils furent à Salamis, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour leur aider. Actes chapitre 13, verset 5. Luc est donc seul avec moi, est-il dit. Prends donc Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le ministère. 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Donc, celui qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes fut un grand compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Il est dit qu'il était avec lui dans les derniers endroits qui ont été mentionnés dans le livre. Il parle de lui-même comme étant accompagné de l'apôtre Paul dans tous ses voyages. Aussi emploie-t-il la première personne du pluriel. Il dit « Nous sommes allés à tel endroit, nous avons mis à la voile, etc. » L'apôtre Paul l'aimait donc beaucoup. Il est le médecin bien-aimé dont il est question, Colossiens chapitre 4, verset 14. L'apôtre compte donc Marc et Luc au nombre de ses compagnons de voyage. Marc aussi et Aristarque et Démas et Saint-Luc. Ce sont mes compagnons d'œuvre. C'est écrit dans Philémon chapitre 24. Donc, Philémon 24. Donc les livres du Nouveau Testament sont historiques. Ce sont des livres dogmatiques et prophétiques. Les livres historiques sont les écrits des quatre évangélistes qui nous ont donné l'histoire de Christ, qui nous ont donné l'histoire de la rédemption accomplie par Jésus-Christ et sa résurrection et de son ascension. Les Actes des apôtres, qui nous donnent un récit des grands événements qui ont concouru au premier établissement et à la propagation de l'Église chrétienne. Les livres dogmatiques sont les épîtres, la plupart écrites par l'apôtre Paul. Et nous avons un livre prophétique qui est placé à la fin de l'histoire de la Sainte Bible et qui nous donne un récit des grands événements qui doivent concourir au développement de l'œuvre de la rédemption jusqu'à la fin du monde. On croit que tous ces livres ont été écrits avant la destruction de Jérusalem, excepté ceux de l'apôtre Saint Jean, qui a vécu beaucoup plus longtemps que tous les autres apôtres. et qui a écrit à ce qu'on croit après ces événements. Ce fut donc à ce disciple bien-aimé que Jésus-Christ a révélé les choses admirables qui devaient avoir lieu dans son Église jusqu'à la fin du monde. Il a mis la dernière main au canon des Saintes Écritures et il a scellé le tout. De sorte que maintenant, ce canon règle grande et permanente de la foi de l'Église, c'est une règle permanente de la foi de l'Église qui a commencé à être écrite du temps de Moïse déjà, et qui a été complétée et arrêtée. C'est une, on peut dire, une malédiction qui est prononcée contre celui, écoutez bien, contre celui qui ajouterait ou qui en retrancherait, et j'ajoute, qui transformerait quelque chose. Et ainsi, tous les moyens de grâce ont été terminés dans le siècle apostolique ou avant la mort de l'apôtre Jean, et ils resteront les mêmes jusqu'au jour du jugement. Tout ceci a rapport aux choses qui ont servi à l'établissement des moyens de grâce dans l'Église chrétienne. En effet, chers amis, depuis la résurrection de Christ jusqu'à la chute de l'Antéchrist, nous trouvons une époque de tribulation pour Sion. Pendant cette période, il y a toujours eu quelques portions de l'Église persécutée, et pendant une grande partie du temps, cela a été vrai de l'Église entière, ou du moins de l'ensemble du peuple de Dieu. Pendant les trois premiers siècles après Christ, l'Église fut généralement dans une grande affliction, et elle a souffert les mauvais traitements et les reproches de la part des Juifs d'abord et ensuite de la part des païens. Après quoi, dès le commencement du règne de Constantin, l'Église pour quelque temps a joui du repos et de la prospérité, et cela est figuré dans l'Apocalypse chapitre 7 par les anges qui ont retenu les quatre vents pour un peu de temps. Mais peu après, l'Église a souffert la persécution. Elle fut donc dans l'obscurité, elle fut dans le mépris et dans la souffrance pendant longtemps, jusqu'à la réformation de Luther et des autres réformateurs. Et depuis la réformation, les persécutions de l'Église ont dépassé tout ce qu'on avait pu ou on avait vu précédemment. Et bien que quelques portions de l'Église de Dieu aient eu quelquefois du repos, néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, en général, la vraie Église est subjuguée par ses ennemis et quelques-uns de ses partis souffrent de cruelles persécutions, et il faut s'attendre qu'il en soit toujours ainsi jusqu'à la chute de l'Antéchrist. Alors viendra le jour marqué dans lequel l'Église doit prospérer sur la terre, le temps arrêté dans lequel Dieu favorisera Sion, le jour dans lequel les saints ne seront plus assujettis aux méchants, non, ils ne seront plus assujettis aux méchants, mais dans lequel ils régneront, alléluia, comme cela est dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, afin que le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les yeux soient donnés au peuple des saints du souverain, Daniel chapitre 7, verset 27. Pour terminer notre étude, chers amis, il est à remarquer que pendant ces souffrances de l'Église, le gouvernement romain a été le principal instrument de ces persécutions. Et c'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, Rome est appelée la Babylone, parce que de même que anciennement Jérusalem a eu surtout à souffrir de la part de Babylone, ainsi l'Église chrétienne, la Jérusalem spirituelle, pendant son long temps d'épreuve, a eu surtout à souffrir de la part de Rome. Avant l'Église de Constantin, l'Église chrétienne a eu à souffrir de la Rome païenne. Depuis, elle a eu surtout à souffrir de la part de la Rome papale. Et de même qu'anciennement, la captivité des Juifs a cessé à la destruction de Babylone, ainsi la persécution de l'Église chrétienne cessera avec la destruction de l'Église de Rome. Nous arrêtons notre étude ici pour aujourd'hui et je voudrais, avant de terminer par la prière, vous donner quelque chose que le Seigneur m'a donné pour votre édification personnelle et aussi pour vous encourager. Écoutez bien. Aimez, aidez et priez. Quand il s'agit de ceux que vous aimez, ne vous mettez pas en peine, car c'est en Jésus-Christ que se trouve l'aide dont ils ont vraiment besoin. Ce qui ne veut pas dire que si vous avez des moyens d'aider quelqu'un, c'est votre devoir tout de même de le faire. Donc, si vous obéissez au Seigneur et que vous mettez en œuvre ce qu'il vous a dit, vous rendez effective cette aide. Occupez-vous donc par conséquent de votre propre vie tout d'abord, lorsque vous désirez être utilisé pour travailler au salut des autres. Faites de cette vie tout ce qu'elle doit être, pour autant, du moins, que cela dépend de vous. Quand il s'agit du concours que vous êtes appelé à lui apporter, il ne doit pas y avoir de limite à votre disponibilité. Et comprenez bien que l'amour est le baume universel auquel toujours à nouveau vous devez avoir recours parce qu'il vous permettra de faire tomber toutes les barrières. Il est donc l'essence même du Dieu que vous aimez et que vous servez. Ainsi donc, à l'ombre de cette bannière, marchez à la victoire avec une joyeuse et tranquille assurance. Ce qui vous est demandé, c'est d'aider, de réconforter, de relever, de conduire à la guérison. Vous ne le pourrez que dans la mesure où vous serez capable d'aimer. Chers amis, maintenant, nous allons prier ensemble. Prions. Ainsi a dit l'Éternel, les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous et quel serait le lieu de mon repos? Car ma main a fait toutes ces choses, c'est par moi qu'elles ont eu leur être. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, afin que vous trouviez vos délices dans la splendeur de sa gloire. Je vais faire couler sur elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Je vous consolerai comme une mère console son fils, et vous serez consolés. Votre cœur se réjouira, et vos os reprendront vigueur comme l'herbe, et la main de l'Éternel se fera connaître en faveur de ses serviteurs, mais il sera ému d'indignation contre ses ennemis. Car l'Éternel viendra avec le feu, et ses chariots seront comme une tempête pour tourner sa colère en fureur et sa menace en flamme de feu. L'Éternel exercera son jugement contre toute chair. Il vient pour rassembler toutes les nations. Comme les cieux nouveaux et la terre subsisteront toujours devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsistera votre postérité et votre nom. Et il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, et depuis un sabbat jusqu'à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant ma face, a dit l'Éternel. Au lieu du buisson croîtra le sapin, et au lieu de l'épine croîtra le myrte. Et cela rendra glorieux le nom de l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées par-dessus vos voix, et mes pensées par-dessus vos pensées. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Et chers amis, je vais essayer de vous mettre maintenant quelques chants d'un très lointain passé, 1962. En ce temps-là, croyez-moi, il n'y avait pas de CD et l'enregistrement sur bande avec le temps qui a passé est évidemment plus aussi net pour pouvoir comprendre chaque mot. Mais vous pourrez quand même profiter dans le sens de l'esprit qui vous transmettra les choses pour votre esprit. Amen.
Jesus. True confession that you can give to the Lord. He's my rock, my fortress, the one I hide in. he's my deliverer, the one who speaks me to pray. He's the one that I'm trusting in. Praise the name of Jesus, deliverer. Something which is the handiwork of your Creator and your God. We're just going to thank the Lord for His blessing for us, for eyes to see, for the senses that He's given us, for the appreciation, for the creation, for everything that He's given to us.